Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et c'est toujours une grande joie pour toute l'équipe de vous retrouver chaque semaine. Bonjour Francis.
Bonjour Liliane, comment allez-vous?
Ça va, monsieur Laloupo, et vous-même?
Ben ça va, toujours confiné en effet. Confiné,
et vous êtes encore cette semaine à la maison, vous faites l'émission de la maison et ce n'est pas plus mal quand même.
Je ne vous dirai pas mes sentiments à cet égard, on vit des moments compliqués, disons.
J'imagine.
Oui, enfin, bon, écoutez, pourvu que le monde aille mieux, c'est ça l'essentiel. Au sommaire de cette édition, la suspension de la contribution américaine à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en pleine pandémie du coronavirus. Cette décision a suscité des réactions d'indignation cette semaine. Et en Afrique, c'est la grande inquiétude, Liliane.
Une angoisse, Francis, justifiée selon plusieurs experts, car l'Afrique, avec 1,32 milliard de dollars annuels, est la principale région bénéficiaire des fonds de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, qui a déjà arraché de nombreuses vies à travers le monde. Comment comprendre la décision de Donald Trump, les accusations selon lesquelles l'OMS a commis des erreurs dans la gestion de la pandémie, mais aussi de complaisance avec la Chine, sont-elles fondée? Que doit faire l'Afrique face à cette décision américaine? Analyse.
Autre sujet de cette édition, des actes isolés ou alors de véritables offensives racistes contre des Africains en Chine. Des images d'Africains malmenés et humiliés en Chine ont fait le tour du monde cette semaine.
Oui, à l'origine, des accusations de non-respect des mesures de confinement par quelques ressortissants du continent, expulsés de leur appartement ou des hôtels qu'ils occupaient, chassés des restaurants, mis en quarantaine forcée dans des conditions très précaires. Il n'était pas bon d'être noir ces derniers jours dans certaines localités chinoises, ont rapporté des témoins sur place. L'Union africaine a vivement condamné ces actes de xénophobie. Le gouvernement chinois a présenté des excuses. Incident clos ou alors L'UIA doit-elle aller plus loin? Que faire pour que de tels actes ne se reproduisent en Chine ou ailleurs? Nous en débattrons.
Et un dernier sujet, au Mali, interrogation autour du second tour des législatives de ce dimanche. Toutes les conditions sanitaires et sécuritaires seront-elles réunies pour protéger les électeurs contre la pandémie du Covid-19?
En effet, 35,73% des 7 663 464 électeurs attendus ont voté lors du premier tour le 29 mars dernier, soit 4 jours après le premier cas déclaré du Covid-19. Près de 800 bureaux de vote n'étaient pas ouverts sur les 22 147 prévus. Le second round de ce dimanche se tient alors même que le pays a enregistré au 16 avril 171 cas, dont 34 guéris et 13 morts. À vous, Francis, pour le plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Dakar, le docteur Seri Bambagaï, consultant et chercheur, expert senior en gouvernance et stratégie. Docteur Gaï, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis.
Merci d'être avec nous. Et également un confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Paris, Tchambel Gambayara, directeur du mensuel d'information La Voix du Mali. Tchambel Gambayara, bonjour.
Bonjour à tout le monde, Francis.
Et puis comme de coutume, une petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Dr Seri Bambagaï, titulaire entre autres d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Laval au Canada, d'un diplôme d'études approfondies DEA en anthropologie, d'une maîtrise en philosophie, d'une licence en sociologie et d'un certificat en planification économique et de 2 certificats en management et évaluation de projets. Vous travaillez, docteur, depuis plus de 20 ans dans les domaines des relations internationales, de la stratégie, des politiques publiques et de la gouvernance au sein d'institutions étatiques, d'organisations du système des Nations Unies et d'ONG. Vous avez occupé au Sénégal les fonctions de haut fonctionnaire dans plusieurs ministères, dont celui de l'économie, des finances et du plan. En tant que conseiller technique au Canada, vous avez été gestionnaire principal de projets en consolidation de la paix au centre Pearson et chargé de cours à l'Université de Montréal. Conseiller du PNUD en gouvernance et chef de bureau en République démocratique du Congo, vous êtes actuellement chargé de cours en relations internationales au centre des hautes études de défense et de sécurité à Dakar. Docteur Seri Bambagaï, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet avec vous, Liliane, l'OMS vs USA.
Tout Tout à fait. J'ordonne la suspension du financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant qu'une étude est menée pour examiner son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus. C'est par cette déclaration mercredi que le président américain Donald Trump a annoncé une mesure qui a entraîné diverses réactions, notamment sur le continent. Décision profondément regrettable. Notre responsabilité collective est de veiller à ce que l'OMS puisse s'acquitter pleinement de son mandat, qui n'a jamais été aussi urgent, a réagi le président de la Commission de l'Union africaine. Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également regretté la décision du président Trump en ajoutant que le financement américain et donc de l'OMS est utilisé pour lutter contre plusieurs maladies et affections au-delà du Covid-19. La directrice générale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Mati Diso-Mweti, appelle de son côté le président Trump à reconsidérer sa décision. Précision de Samba Dialem Pabadji de BBC Afrique.
Les États-Unis, qui sont le principal contributeur à l'OMS, s'étaient engagés à allouer 151 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé pour les deux prochaines années. L'OMS a déjà reçu 50 millions de dollars américains. Mais les dernières annonces faites par le président Trump de retirer le financement américain jettent désormais le doute sur les opérations de l'organisation sur le continent. L'un des programmes qui sera fortement touché est la fourniture de la vaccination dans de nombreux pays. Une campagne d'éradication de la polio est toujours en cours en Afrique, 12 pays connaissant toujours des flambées. La directrice de l'OMS pour l'Afrique, Dr Mati Diso-Mweti, espère que les États-Unis reviendront sur leur décision.
L'impact sera énorme, mais nous espérons qu'ils reviendront sur leur décision, parce que les États-Unis sont un important partenaire, pas uniquement en termes financiers, mais aussi c'est un important partenaire technique. Nous travaillons avec beaucoup d'institutions techniques aux États-Unis pour la mise en place de nos politiques et stratégies.
L'organisation a également affecté 300 millions de dollars à la lutte contre le nouveau coronavirus en Afrique pour les 6 prochains mois.
Docteur Gaï, avant d'évoquer les conséquences sur l'Afrique de cette suspension de contribution américaine à l'OMS, quelle analyse vous faites de la décision de Trump ? Est-ce que les arguments qu'il a fait valoir, à savoir, je le rappelle, la complaisance de l'OMS envers la Chine ou encore des erreurs de gestion de la crise par l'OMS, est-ce que ces arguments sont à vos yeux recevables ?
Je pense que les arguments avancés par le président Donald Trump pour justifier la décision, sa décision de couper le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé, ces arguments sont discutables, pour ne pas dire des arguments assez légers. Mais ces arguments, la décision américaine s'inscrit dans une suite d'escalade. Depuis le début de cette crise, les États-Unis ont essayé de chercher des boucs émissaires pour justifier aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve ce pays. Rappelons que au début de cette épidémie, le président Donald Trump, informé par la plupart de ses conseillers, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour stopper cette épidémie.
Il avait même parlé d'une simple grippe
et disait que notre système politique économique était invincible et qu'une simple grippe ne pouvait pas véritablement l'abattre. Au finish, aujourd'hui, les États-Unis sont devenus l'épicentre de la crise du coronavirus. Et cela crée un grand problème aux États-Unis. Les Américains sont en train de demander des comptes à le président de la République. Et devant cette situation, le président Donald Trump a eu en fait une posture qui est une posture agressive, mais également une posture qui se justifie par les dénis, également une fuite en avant.
Donc pour vous, l'OMS est simplement un bouc émissaire, comme vous le dites.
Le président Trump
chercherait-il à faire diversion, à camoufler, donc comme vous le dites, ça, la mauvaise gestion de la crise aux États-Unis.
Mais absolument, absolument. Ce qui frappe aux yeux, c'est véritablement l'incompétence de l'administration fédérale américaine à juguler cette crise. Et cela ne nous surprend pas. Aujourd'hui, tous les observateurs qui suivent la posture du président américain depuis son élection sur les questions internationales attendaient aujourd'hui ce moment, quelle sera la position du président Trump face à une grande crise mondiale. Et face à cette grande crise mondiale, le président Trump n'a pas fait preuve de leadership, il n'a pas fait preuve de solidarité, et pire encore, il est en train de prendre des décisions qui fragilisent aujourd'hui la réponse internationale contre le COVID-19. Donc je pense que l'OMS n'est qu'un bouc émissaire, mais ce bouc émissaire également va permettre au président Trump d'affiner sa poursuite, parce qu'on est en année électorale. Les élections présidentielles, c'est le 3 novembre prochain. Et le président Trump, aujourd'hui, qui est affaibli par cette situation, veut montrer aux Américains qu'il n'est pas responsable et qu'in fine, le responsable, c'est la Chine. Rappelons que depuis que le président Trump est élu président de la République, la Chine apparaît comme étant l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi désigné des États-Unis. Et cela permet de conforter le président Trump dans cette poursuite et de permettre à son électorat d'être suffisamment convaincu qu'en fait, l'ennemi, c'est la Chine, et que le président Trump a fait de son mieux, et que véritablement, ce dont il s'agit, c'est de s'opposer à la Chine, quel que soit par ailleurs les arguments de bon sens aujourd'hui, qui demandent une solidarité internationale, qui demandent une mobilisation derrière l'Organisation mondiale de la santé, car cette organisation est utile.
Merci.
C'est utile parce que l'OMS a toujours un rôle normatif. C'est cette organisation qui permet de normer comment on doit gérer la santé au niveau mondial. Cette organisation joue un rôle d'alerte et de conseil. Et elle a fait très bien son travail depuis le début de cette crise. Également, cette organisation joue un rôle également d'appui conseil au gouvernement afin que ces derniers puissent élaborer des politiques publiques qui doivent lutter contre les maladies. En l'espèce, ce n'est pas l'OMS qui est responsable de la pandémie dans un État.
Merci beaucoup, Dr Gaye. Merci.
Ce sont les États qui doivent aujourd'hui prendre les responsabilités pour lutter contre le coronavirus. Et donc, on ne peut pas dire que tout de go, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est responsable de l'avancée de la pandémie au niveau mondial. Si par ailleurs...
Merci pour ça. Permettez-nous de vous poser des questions.
Docteur Sérine Mbagaï, là, je m'adresse au professeur de relations internationales que vous êtes. On sait que l'OMS est une organisation composée d'États membres de l'ONU, donc y compris les États-Unis. Quelle réflexion vous inspire le fait qu'un État, des États membres, en l'occurrence les États-Unis, s'érige en procureur de cette organisation, alors même que ses représentants participent au choix de fonctionnement de l'OMS?
Mais c'est vraiment contradictoire. C'est-à-dire que les États-Unis jouent un rôle central aujourd'hui au niveau de l'Organisation mondiale de la santé parce que c'est un des plus grands contributeurs.
Et de tout 400 temps, à 500 millions de dollars par an à l'OMS.
De tout temps, les États-Unis ont joué vraiment ce rôle de leadership au niveau de cette organisation. Mais en vérité, cela ne surprend pas les observateurs que nous sommes. C'est depuis que le président Trump a été élu, le président Trump a toujours dénoncé le multilatéralisme. America first. Donc, et cela, c'est un précédent dans l'histoire.
Ils sont retirés également de l'UNESCO également.
Je vais continuer. C'est un précédent dans l'histoire contemporaine des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que depuis 1945, les États-Unis ont exercé un leadership international sur les questions du multilatéralisme et ont été également un élément important pour pouvoir, en des moments de crise, donner une lecture, même si elle était critiquable, qui permet en fait de juguler la crise. Mais ici, ce qu'on constate, c'est deux choses. Non seulement il y a une remise en cause du multilatéralisme au moment où on a besoin du multilatéralisme à travers l'Organisation mondiale de la santé, mais également c'est le leadership des États-Unis. Les États-Unis se distinguent par le déni de la réalité, c'est en avant et manque de leadership, et cela crée un vacuum dans les relations internationales.
C'est ça.
Et in fine, celui qui perd en premier, c'est les États-Unis.
Un commentaire. Hein. Quels que soient les reproches que l'on peut faire à l'OMS, est-ce que c'était le bon moment de décider de le retirer une contribution financière en pleine épidémie? Pandémie.
Non, évidemment que non, parce que le monde entier fait face à cette pandémie avec préoccupation. Je ne dirais pas que c'est parce que c'est un Africain qui dirige aujourd'hui l'OMS que Trump a agi comme ça. Il y a un précédent fâcheux, sans nul doute, le cas de l'UNESCO est là pour rafraîchir notre mémoire. Et il faut faire un distinguo entre Trump le candidat et Trump l'ancien président. Quand il revêt l'habit d'un candidat, il s'engage en campagne, il veut trouver un bouc émissaire, il veut s'accrocher. Alors que son accroche n'était pas encore bonne jusque-là, et c'est Trump revisite, mais il revisite dans le mauvais sens le choix stratégique et technique en chargeant la Chine et l'inverse de culpabilité d'une pandémie qui fait des malheurs aujourd'hui aux États-Unis et partout dans le monde.
Docteur Gaye, alors, par principe, hein, qui paye décide. Les États-Unis étant le principal bailleur de l'OMS, est-ce qu'il n'a pas tout de même le droit, s'il le souhaite, d'exiger une enquête ou un audit de l'OMS pour savoir comment l'argent versé est géré?
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Nous faisons face à une crise brutale sans précédent au niveau sanitaire. Et cette crise affecte de part en part les relations internationales et remet en cause la globalisation.
Donc ce qui dérange, c'est le timing?
Oui, c'est ça. Je pense qu'après cette crise, de manière froide, il faudra faire une analyse approfondie de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont des questions troublantes. L'origine du virus, comment, pourquoi la Chine a tardé en fait à déclarer les cas, comment également le virus se propage. Je pense qu'il y a des questions légitimes. Mais ce n'est pas le moment, de manière brutale, de dire « je me retire et je désigne du doigt l'OMS comme étant au mauvais jour, mais les responsables de la crise ». Non, je pense que ça, c'est fait preuve de mauvaise foi. Autant les Américains ont le droit de se poser des questions, autant les Américains ont le droit d'exiger des enquêtes, mais on est à un momentum des relations internationales. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde est frappé par une crise qui traverse de part en part tous les secteurs et qui aujourd'hui nous met à genoux. Donc nous devons faire preuve de solidarité, de leadership, de vision pour juguler ce qui est. Ensuite, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé.
Professeur, docteur, est-ce que Trump n'est pas en train, au fond, de privilégier son agenda politique personnel contre cette urgence sanitaire mondiale?
Mais évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on est en année électorale. L'élection présidentielle aura lieu normalement le 3 novembre prochain. Le président Trump est candidat à sa réélection et il va utiliser tous les arguments pour pouvoir être élu. Et parmi ces arguments, c'est aujourd'hui de dire aux Américains, je ne suis responsable de rien, moi. Je n'ai rien fait. C'est l'Organisation mondiale de la santé et la Chine. Parce que le président Trump a échoué. Ça, les Américains même le reconnaissent.
Mais vous pensez que les Américains vont aussitôt oublier son attitude de départ? Nous avons cité certaines études qu'il a faites au début de la crise.
Oui, mais tout dépendra, il appartiendra aux Américains, aux forces politiques américaines, au Parti démocrate, et à l'ensemble des secteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie, de citer les responsabilités de leur gouvernement. Et il appartiendra aux électeurs américains, le moment venu, de prendre les responsabilités. Mais cela ne veut pas dire que les Américains vont tirer toutes les conclusions de ces événements, parce que l'Amérique est traversée aujourd'hui de manière fondamentale par un puissant courant conservateur suprémaciste blanc. Et le président Trump en est l'exemple le plus achevé. Et ces gens feront tout pour pouvoir
pour
le réélire. Donc je pense qu'il faut avoir une lecture très froide des enjeux au niveau national. Ce faux pas au plan international ne signifie pas ipso facto qu'il ne sera pas réélu.
Merci beaucoup. On va marquer une pause.
Merci d'entendre ça.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Dakar, le docteur Tseri Nyabamba Gaye, consultant et chercheur, expert senior en gouvernance et stratégie, et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Paris, donc confiné, Tchambel Gembayara, directeur du mensuel d'information La Voix du Mali. Docteur Tseri Nyabamba Gaye, on va continuer, donc on va poursuivre ce débat sur la décision de Donald Trump de suspendre la subvention américaine à l'OMS. Alors, à quoi tient selon vous précisément ce reproche qui est fait à l'OMS de sa proximité excessive, dit la Maison-Blanche, avec la Chine?
Oui, je pense que cela a surpris tout le monde, parce qu'il faut, quand il y a une pandémie ou bien une épidémie dans un pays, le premier acteur en jeu, c'est le gouvernement. Le premier acteur, c'est-à-dire quel que soit le pays, s'il y a une épidémie ou bien une maladie qu'on constate dans ce pays, c'est le premier acteur qui émerge, c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui maîtrise les faits, les statistiques, et c'est le gouvernement qui peut donner les informations à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé les analyse et en tire les conclusions. Et en l'espèce, l'Organisation mondiale de la santé a reçu les premières statistiques courant mois janvier, et à partir de fin janvier, l'organisation a décrété qu'il y avait une pandémie au niveau mondial. Donc du point de vue du timing, je pense qu'on n'a rien à reprocher à l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que les informations que cette organisation a reçues de la part de la Chine étaient des informations fiables? Ça, je ne peux pas le dire.
C'est l'une des choses que reprochent les États-Unis à l'OMS.
Oui, d'accord, mais il est très difficile d'avoir un point de vue tranché, parce que ce qui collecte les informations sur le terrain, c'est l'administration chinoise. Ce n'est pas l'OMS. Donc, c'est ça, il faut faire preuve, en fait, de lucidité, et vouloir tirer de manière tout à fait précipite une conclusion en disant que l'OMS a travaillé sur des statistiques qui étaient erronées, je pense que là aussi, c'est très vite allé en besoin.
Docteur Guy, voilà, revenons-en à l'impact ou aux effets de cette suspension sur les programmes de santé en Afrique. On a écouté dans le reportage la directrice Afrique de l'OMS s'inquiéter de la suspension ou de l'arrêt carrément de certains programme. C'est vrai que perdre 4 à 500 millions de dollars de financement annuel menacera forcément l'équilibre financier de l'OMS. Alors que doit ou pourrait faire l'Afrique pour éviter ce scénario, c'est-à-dire celui de l'arrêt de certains programmes de santé en Afrique, peut-être la vaccination?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains ont le dos au mur. D'abord, ils doivent prendre les mesures de riposte pour arrêter l'expansion de la pandémie. Et deuxièmement, continuer tous les programmes de santé, notamment les programmes tournés autour de la lutte contre les maladies comme la polio, la tuberculose, etc. Donc, il y aura des problèmes de moins. Donc, il appartient aux États africains, à mon niveau, de mobiliser les ressources locales.
Et comment où mobiliser ces ressources? Où peuvent-ils prendre ces ressources? Est-ce qu'on peut envisager peut-être une augmentation de la contribution des autres pays riches ou peut-être une réduction du train de vie des fonctionnaires de l'OMS? Je pose la question pourquoi? Parce que quand on regarde la répartition du budget annuel de l'OMS, l'Afrique reçoit certes 1,32 milliard, mais le siège de l'OMS à lui seul utilise 591 millions de dollars par an. Où va-t-on chercher l'argent pour combler le gap laissé par la suspension américaine?
Je pense qu'on peut chercher l'argent dans deux dimensions. D'abord, la première dimension va consister à aider l'Organisation mondiale de la santé à combler ce gap. Comment? Il appartient d'abord à l'Organisation mondiale de la santé de faire le plaidoyer au niveau d'autres États afin que ces derniers puissent augmenter leur contribution. Mais il appartiendra également aux Africains. L'Union africaine vient de me supplier au comité de réflexion et à d'autres organisations comme la BAD de pouvoir faire le lobbying au plan international pour pouvoir aider l'Organisation mondiale de la santé à avoir le financement. Et c'est tout à fait faisable. Parce qu'on est aujourd'hui dans un moment où les acteurs issus des relations internationales travaillent dans plus de solidarité que dans plus de fragmentation. Je pense qu'il y a un leadership à prendre au niveau africain, au niveau du président en exercice de l'organisation qui a mis sur pied ce panel de 5 personnalités. La BAD doit également jouer son tempo. Des pays africains diplomatiquement...
4 plus précisément.
La Banque africaine de développement, à mon niveau, a mis sur pied un fonds pour lutter contre le coronavirus, donc doit faire en sorte qu'elle puisse participer à aider l'Organisation mondiale de la santé. Donc, des États africains qui sont diplomatiquement influents peuvent faire le lobbying au plan international, mais au niveau national, il y a des ressources à mobiliser. Les ressources à mobiliser, c'est d'abord, il faut revoir le train de vie des États, c'est important, il faut faire une réallocation.
Et pas de l'OMS ?
Comment ?
Et pas de l'OMS ?
Non, j'ai dit
oui, non, vous parlez l'OMS. De train de vie, revoir le train de vie des États et de l'OMS ?
Oui, le train de vie des États d'abord, parce que c'est le train de vie d'abord des États. Les États doivent dégager des ressources.
Excusez-moi, docteur, je pose la question aussi parce qu'on a souvent reproché aux organisations internationales, tout le système des Nations Unies, de dépenser plus pour le fonctionnement de ces organisations que dans la lutte pour ce pourquoi ces organismes sont créés.
Ouais,
ces agences sont créées.
Ouais, je pense que souvent les gens n'ont pas le chiffre. Moi, je travaille dans une organisation internationale, j'ai entendu ça, mais souvent ce n'est pas exact. Je pense que l'immense majorité de ressources participent à ce qu'on appelle la gestion des programmes. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait rétablir la vérité. Évidemment, dans son contexte que va traverser l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé va faire des choix douloureux pour véritablement diminuer son personnel. C'est un problème de bon sens. Maintenant, au niveau des États africains, je pense qu'aujourd'hui, nous traversons une crise très importante et les États doivent prendre les responsabilités. D'abord, pour mieux gérer les ressources dont ils disposent. Deuxièmement, lutter contre la corruption. Parce que la corruption, l'invasion fiscale, le rapport Thabo-Mbeki montre que l'Afrique perd chaque année entre 50 et 100 milliards de dollars, donc il faut puiser dans ses ressources. Également, mobiliser les populations, parce que ce que je vois dans certains pays aujourd'hui me réconforte. C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui les organisations locales s'impliquer, acheter des masques, quand on voit aujourd'hui les organisations locales acheter des médicaments, quand on voit les organisations locales qui se mobilisent pour la propriété, ça montre qu'il faudrait que l'initiative puisse venir des Africains.
Vienne aussi de la base. Merci. Francis, on n'a plus beaucoup de temps. Merci, docteur Francis.
Une toute dernière question, docteur. Vous le savez, comme toutes les organisations multilatérales, l'OMS n'est pas parfaite. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, il y a un temps pour lutter contre la pandémie, faire face à l'urgence, et puis il y aura le moment venu, le temps de faire le point et de tirer les enseignements nécessaires. Est-ce que,
absolument,
selon vous, il faudrait quand même, le moment venu, engager des réformes au sein de l'organisation, au sein de l'OMS, qui n'est pas à l'abri des critiques, de certaines critiques depuis quelques années, et de votre point de vue, quelles seraient les réformes prioritaires à engager ?
Je pense qu'après cette crise, il faudra réformer le système onusien, l'Organisation des Nations Unies.
Mais ça fait des années qu'on essaie de réformer le système onusien, on n'y arrive pas.
C'est ça en fait, c'est la conséquence.
C'est tout le temps reporté.
Tout le temps à tout le monde, qu'il faudrait tout réorganiser. Les Nations Unies, y compris ces organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'il faudrait réformer l'Organisation mondiale de la santé pour que l'OMS puisse jouer un rôle de veille et d'alerte. Et en faisant en sorte que l'OMS puisse travailler avec des cellules et de veille et d'alerte dans des régions du monde ou bien dans des pays, cela permettra de pouvoir collecter en temps réel les informations et d'agir. Je pense que ça, c'est la première leçon apprise. La deuxième leçon apprise, c'est de pouvoir permettre aux pays qui sont les plus affectés, qui sont des pays où les endémies en fait sont de manière récurrente, d'avoir les outils en matière de recherche, en matière également de santé, de prévention, pour pouvoir juguler à temps réel ces crises. Parce qu'on est dans la réaction, on est plus dans la réaction que dans l'anticipation.
Merci beaucoup.
Et la troisième leçon,
professeur, pour terminer, s'il vous plaît.
Allez-y, la troisième.
La troisième action à mettre en œuvre, c'est véritablement de faire en sorte que l'Afrique devienne plus que jamais le lieu privilégié des interventions de l'Organisation mondiale de la santé.
Merci
et qu'il
beaucoup.
Y ait véritablement un plan pour pouvoir endiguer les maladies émergentes et lutter contre les coronavirus.
Merci. Avant de passer à la pause, Francis, juste signaler que l'Union africaine va distribuer à partir de lundi prochain 1 million de tests de dépistage du Covid-19 selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. J'aurais bien aimé que l'invité réagisse sur l'action de l'Union africaine face au Covid, mais on n'en a plus le temps.
Débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin, le docteur Seri Mbambagaye, consultant et chercheur, expert senior en gouvernance et stratégie, et notre confrère invité, Tiambel Gemayara, directeur du mensuel d'information La Voix du Mali. On a à présent parlé de cette vague de racisme contre des Africains en Chine notamment dans la province de Guangdong, à Canton, donc, dans un contexte marqué, on le sait, par la crainte d'une deuxième vague de contamination du Covid-19 provenant de l'étranger. Des Africains sont devenus la cible d'actes et propos discriminatoires et racistes de la part de la population et des autorités chinoises, expulsées de leur logement, interdits d'accès dans des restaurants et autres commerces, exposées à des pratiques humiliantes au sein des administrations, soumises aussi à des procédures de quarantaine dégradantes. Des Africains de cette province du sud de la Chine ont donné l'alerte en postant sur la toile des vidéos qui ont suscité une vive émotion dans les capitales africaines, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Réagissant à cette situation, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé à l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union africaine, je cite, « son extrême inquiétude au sujet des allégations de mauvais traitement d'Africains à Canton, tout en appelant à, je cite toujours, à des mesures rectificatives immédiates dans la droite ligne de nos excellentes relations. » Fin de citation. En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a insisté pour sa part sur la politique amicale de la Chine envers l'Afrique, tout en estimant que, je cite, « le gouvernement chinois traite tous les étrangers en Chine de la même manière et a une tolérance zéro vis-à-vis des paroles et actes discriminatoires. » Fin de citation. Docteur Seri Mbambagaye, quel peut être l'impact de cette affaire sur les relations entre les pays africains et la Chine, premier pays investisseur sur le continent?
En tout cas, ces événements douloureux que vous venez de rappeler montrent une fois de plus que la Chine est dans une mauvaise posture. Au moment où elle tente de jouer en fait le soft power en envoyant du matériel médical à travers le monde et en Afrique, en rappelant toujours sa solidarité à l'Afrique, que de telles images et de telles scènes puissent être notées en Chine, tout cela en fait pose problème. Et tout ceci montre qu'il y a un décalage entre le discours diplomatique policé et voire militant de la Chine qui met l'accent sur les relations entre l'Asie et l'Afrique et la réalité telle que les Africains le vivent. Et ce qui se passe actuellement dans la province de Guangdong, c'est quelque chose de récurrent. On constate très souvent qu'il y a des actes de racisme contre les Africains qui vivent en Chine. Donc je pense que
cela bien avant la pandémie.
Bien sûr, bien la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui la Chine a le dos au mur. Donc son image est écornée et toute sa politique de soft power qu'elle est en train de mettre en œuvre aujourd'hui est en train de connaître un véritable coup. Deuxièmement, je pense que l'Union africaine aujourd'hui a félicité parce que le président de la Commission et les ambassadeurs africains accrédités à Pékin ont pris leurs responsabilités et ils ont dénoncé en les qualifiant de racistes. Et troisièmement également, la Chine a présenté ses excuses. Je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là.
Et justement, c'était ma question, il ne faut pas s'arrêter là. Que peut faire l'Union africaine aujourd'hui? Est-ce qu'elle a les moyens politiques pour une réponse, pour exiger une réponse plus forte de la Chine et qui a quand même financé la construction du siège de l'Union africaine?
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la Chine a plus besoin de l'Afrique. La Chine a besoin de l'Afrique dans le cadre de son expansion économique et également de sa politique de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. L'Afrique joue un rôle central pour positionner la Chine comme étant le leader numéro un de la mondialisation et la globalisation. Donc les Africains doivent savoir qu'ils sont en position de force.
Quels sont les moyens dont dispose l'UIA pour exiger...
Le premier moyen, c'est que le prochain sommet sino-africain aura lieu l'année prochaine en Afrique, je pense au Sénégal, cette question devra être inscrite à l'ordre du jour. La protection des Africains en Chine. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine doit prendre ses responsabilités et également le gouvernement pour que cette question soit inscrite. Deuxième point sur lequel l'Union africaine aujourd'hui peut s'appuyer, c'est de faire en sorte que la protection des Africains en Chine soit renforcée au niveau des services consulaires et qu'il y ait des réunions périodiques entre les services consulaires des pays et le ministère chinois des Affaires étrangères pour qu'il y ait ce qu'on appelle un tableau de bord qui doit relever tous ces actes de discrimination.
C'est-à-dire un cadre de monitoring.
De monitoring. Et enfin, dire à la Chine que ces actions doivent être poursuivies au niveau local, au niveau des juridictions. Donc je pense que c'est un problème de leadership, de volonté politique. Les Africains aujourd'hui sont en position pour l'exiger la Chine, parce que la Chine tient à son partenariat avec l'Afrique. Donc si les Africains font preuve de mollesse, ils ne pourront rien régler.
Merci.
Mais s'ils font preuve de leadership en exigeant ce qu'il faut au moins qu'il faut, je pense que cela peut changer la donne.
Mais Francis Guimba, professeur, permettez s'il vous plaît qu'on pose la
Tiambel
question.
On va demander peut-être d'intervenir sur ce sujet. Tiambel, ce n'est pas la première fois que des Africains se disent victimes de racisme en Chine. Est-ce que cette crise sanitaire est tout simplement en train de révéler au grand jour des situations anciennes, hein, des rapports compliqués entre Africains et Chinois dans l'empire du milieu?
Et Francis, si tu peux me permettre de compléter votre question, faut-il considérer, Tiambel, que ces actes ne sont pas ponctuels, comme à mettre peut-être sur le dos de la nervosité ou de l'angoisse générale, voire généralisée, face à la peur de la contamination?
Malheureusement, non. C'est des actes qui reviennent plusieurs fois en Chine et les Africains de ces traitements en Chine et dans plusieurs États, malheureusement. Et une première fois quand même qu'il faut saluer que l'Afrique condamne ces actes-là et que des ministres des Affaires étrangères invitent des ambassadeurs chinois à s'expliquer. Il faut aller au-delà de cette attitude parce qu'aujourd'hui, la Chine est montrée du doigt, elle a très peu de réserves pour continuer ce combat face à l'Occident, face au monde entier. Donc, ce réservoir de voix, elle peut le trouver en Afrique, à condition que les Africains mettent en avant leurs intérêts, comme le disait le professeur par rapport au sommet, mais bien avant le sommet d'ailleurs, déjà dans cette collaboration pour la lutte contre le Covid-19, on peut négocier dur et mettre en avant chaque pays individuellement, ensuite au niveau panafricain, pour protéger les Africains qui sont en ce moment en Chine.
Docteur Gaï, alors, les États-Unis se sont invités dans cette affaire. Un porte-parole du département d'État a dénoncé, je cite, la xénophobie des autorités chinoises et il estime que, je cite toujours, les abus et mauvais traitements à l'encontre des Africains vivant et travaillant en Chine rappellent tristement à quel point le partenariat entre la République populaire de Chine et l'Afrique est creux. Fin de citation. Une déclaration opportuniste, docteur?
Moi, je pense que je la qualifierais d'opportuniste. Je pense que de ce point de vue, les États-Unis sont très mal placés pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Rappelons les propos tenus par le président Trump il y a quelques années en qualifiant les Africains de pays de merde. Donc également, tout le racisme anti-noir aux États-Unis qui est profondément ancré dans cette société et que nous vivons tous les jours. Donc je pense que de ce point de vue, nous devons faire très attention. Il ne faut pas qu'on récupère les causes africaines à des fins diplomatiques. Il nous appartient de manière lucide, de manière calme et apaisée, de parler avec la Chine. Il faut parler avec la Chine. Nous avons des arguments. Il faut véritablement que de tels événements ne puissent plus se répéter. Et nous sommes suffisamment grands.
Et comment éviter justement à l'avenir de tels actes, pas seulement en Chine, mais aussi dans certains pays d'Europe, comme la France et l'Italie, le Maghreb? Comment faire en sorte qu'on ne voit plus des Africains humiliés et traités, et des Africains qui deviennent comme le souffre-douleur dans plusieurs régions du monde?
C'est une question très vaste, parce que vous posez le rapport de l'Afrique au reste du monde. Le rapport de l'Afrique au reste du monde, c'est qu'il y a une image de l'Afrique qui est une image écornée, qui fait que les gens ont plus de préjugés quand ils parlent de l'Afrique, et ces préjugés, malheureusement, se traduisent par des actes de racisme. Mais je pense que la responsabilité nous revient. C'est à nous de construire l'image de l'Afrique. C'est à nous, en fait, de pouvoir dessiner notre rapport avec le monde, et cela commence en Afrique. Il faudrait que nous puissions balayer devant nous-mêmes. On ne peut pas nous respecter quand on a des pays qui sont gouvernés par des potentats. On ne peut pas nous respecter quand dans un pays il y a des guerres civiles interminables. On ne peut pas nous respecter quand des pays véritablement la jeunesse est sacrifiée. Donc je pense que.
Est-ce qu'il y a certains aussi, docteur Gaï, qui estiment que c'est vrai qu'on a vu des hashtags sur les réseaux sociaux comme China Go Home, mais il y a aussi certains, au-delà de ce que vous dites, qui estiment que certains Africains réagissent parfois avec résignation face à des actes de racisme, d'autrement accusés d'Africains d'être carrément conciliants face à ces actes de xénophobie.
Mais oui, c'est ce que je dis. Vous êtes en droit d'une de ce que je dis. C'est-à-dire que s'il y a des actes de racisme dans un pays européen et que les gouvernements africains ne réagissent pas, à chaque combien de fois on a parlé d'actes de racisme dont les Africains sont victimes, des Sénégalais ou des Maliens, etc., et les gouvernements des pays concernés n'ont pas réagi. Donc je pense que c'est d'abord c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait véritablement qu'il y ait en Afrique cette volonté de dire que partout où les Africains sont et partout où ils sont humiliés, victimes de racisme, les gouvernements doivent réagir. Deuxièmement, il faudrait nous-mêmes que nous puissions nous approprier ce que nous sommes pour véhiculer l'Afrique dans ce qu'elle a de plus profond, au niveau de sa culture, au niveau de son histoire. Pour parler comme Cheikh Anta Diop, il nous faut véritablement cette renaissance africaine. Il faut construire cette renaissance africaine. Parce
Merci.
Que tant que l'Afrique ne renaît pas de ce long passé colonial qui n'est pas définitivement terminé, tant que l'Afrique ne se relève pas de ses vulnérabilités, on ne va pas en fait nous construire au niveau mondial. Donc je
Merci
pense
beaucoup.
Que la question que vous posez, elle est en relation avec la nécessité de changer les paradigmes pour refonder l'Afrique à travers sa renaissance culturelle et politique, ce qui fera que l'Afrique sera un acteur majeur des relations internationales au cours de ce millénaire.
Merci, Dr Gaï. Et nous allons passer, Francis, au dernier sujet sans transition. Après la faible mobilisation des électeurs au premier tour des législatives au Mali, seront-ils plus mobilisés ce dimanche 19 avril pour le deuxième tour? Les conditions restent quasiment les mêmes. L'insécurité se poursuit avec de nouvelles attaques de groupes armés enregistrées, menaçant l'ouverture de milliers de bureaux de vote comme au premier tour. Le Covid-19 a progressé par rapport au 29 mars, date du premier tour de l'élection. De même, on est toujours sans nouvelles du leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, sauf s'il y a du nouveau, Tiambel Gimbayara.
Non, on est toujours sans nouvelles du chef de file de l'opposition, effectivement. Les tractations se poursuivent, ce genre de dossier est géré dans la plus grande discrétion. On a quand même libéré certains de ses collaborateurs. Par contre, le médiateur attitré, qui est le maire de Koumaéri, M. Amadou Kolossi, a été rajouté, a été pris comme otage, malheureusement. Mais j'espère, on ose espérer, la situation perdure, on ose espérer quand même que la libération sera très prochaine.
D'accord, on ne va pas faire le débat, Francis, sur la pertinence ou non du maintien de scrutin, mais très rapidement, Tiambel, pensez-vous que les autorités maliennes ont pris toutes les mesures pour garantir dimanche la sécurité des électeurs qui vont faire face à une double menace, celle des attaques armées et de la contamination au Covid-19?
En tout cas, c'est ce que le président de la République a dit dans son allocution du 10 avril dernier. Il a instruit le gouvernement à réunir toutes les conditions pour que le scrutin se tienne dans des conditions acceptables. Et on se rappelle que le premier tour a concerné l'ensemble des circonscriptions électorales et que 22 circonscriptions ont élu une vingtaine de députés. Et ce second tour concernera à son tour 43 circonscriptions. Évidemment, c'est au gouvernement de relever le défi sécuritaire et le défi sanitaire désormais avec cette propagation du Covid-19 qui est à 190 cas aujourd'hui au Mali pour 23 cas de plus.
C'est-à-dire au vendredi 17 avril. Merci.
C'est ça. Nous en sommes là aujourd'hui avec 17 décès et 34 guéris. En tout cas, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a rencontré toutes les parties prenantes à cette élection et a invité chacun à s'impliquer. Le ministre de l'Intérieur également a mobilisé ses troupes et nous osons espérer qu'avec le ministre de la Santé, des mesures seront prises pour freiner, non seulement trouver une solution à l'avancée de la pandémie au Mali, mais aussi que les élections puissent se dérouler. Le Mali sera le premier pays alors à relever une élection, le défi défi d'une élection en temps de pandémie et de crise sécuritaire. Si la réussite est là, bien sûr.
Ceci dit, on pourrait avoir une autre lecture de la situation. Là, je m'adresse au docteur Bambagaï. Docteur, alors, dans une adresse à la Nation que Tchambel évoquait il y a quelques instants, le président Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé que, je cite, « la décision d'aller aux législatives n'est pas le fait du gouvernement, mais du dialogue national inclusif qui a mené ses travaux en totale indépendance, sans aucune interférence. » Vous êtes certainement au courant, bien sûr, docteur, de ce dialogue national. Est-ce que vous comprenez que l'on oppose ce dialogue national dont les décisions peuvent attendre à une urgence sanitaire?
Je pense que le président Mali est dans un dilemme. Le dilemme, c'est qu'il veut être fidèle aux conclusions du dialogue national. Si ça en écarte, demain, on va dire qu'il a copié ce dialogue. Mais en même temps, il est dans un autre dilemme, comment tenir compte du contexte actuel qui est marqué par la recrudescence des attaques des groupes armés, marqué également par l'enlèvement du chef de l'opposition et surtout par le Covid-19. Donc je pense qu'il faut choisir, et il a choisi véritablement de continuer le processus tel que dessiné par le dialogue national.
Mais vu comme ça, docteur, est-ce qu'on peut pas, certains le disent, hein, est-ce que ce processus électoral est destiné réellement à conforter l'État, comme le soutient le pouvoir malien, ou tout juste pour donner des gages aux partenaires extérieurs? Parce que vous savez bien que l'ONU a beaucoup insisté sur la nécessité de tenir ces élections.
Bon, je pense que il ne faut pas se faire d'illusions. Les élections législatives ne vont pas sortir le Mali de sa situation actuelle. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée qu'il faudra aller au-delà de ces élections pour trouver véritablement les solutions qu'il faudra pour résoudre la question politique et militaire auxquelles le Mali est en train de faire face. Donc je pense que ça a été véritablement un pas en avant pour peut-être renforcer sa majorité présidentielle ou bien renforcer sa base politique. Mais je ne pense pas qu'au sorti des élections de dimanche prochain, le Mali va véritablement retrouver la stabilité politique.
Francis, peut-être on laisse 30 secondes à Tchambel pour conclure.
Oui, on peut dire que la décision n'est pas populaire. Elle est loin d'être populaire, mais le gouvernement a pris un pari. Mais il faut aussi signaler d'autre part que le mandat de l'Assemblée nationale a été prorogé pour la deuxième fois et que cette seconde prorogation allait s'achever le 2 mai. Donc on était face à un dilemme, certes, de gestion du pouvoir, mais aussi de mise en œuvre de la résolution numéro 1 du dialogue national inclusif au Mali. On verra bien, on espère bien, plus de peur que de mal, et que ce scrutin se tiendra dans les bonnes conditions.
Merci.
Merci. Le moment est venu d'écouter les messages de nos amis internautes sur notre page Facebook. Un message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Suspension de la contribution américaine à l'OMS, Tidiane Botegueba soutient la décision de Donald Trump et affirme que si l'OMS n'avait pas été complice de la Chine au début de l'épidémie, on n'en serait pas à ce stade aujourd'hui. Pour Abdoulaye Silamana Kondé, Donald Trump est victime de sa propre politique. Au début, il n'avait pas pris la crise au sérieux et le voilà maintenant dépassé par la situation. Racisme anti-noir en Chine, Kabirou Labo estime que l'IA ne peut malheureusement rien, car la faiblesse économique des États africains ne leur permet pas d'avoir une réaction forte face à la Chine. Maintien du second tour des législatives au Mali, Nestor Tizoun se demande ce qui est prioritaire pour les autorités maliennes entre la santé de la population et une élection. Pour lui, en prenant la décision de maintenir le second tour des élections législatives, les autorités maliennes se sont révélées plus nuisibles pour la population que le Covid-19. Merci à Gaël Métard qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à la facebook.com/débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi, Didier. Lando, merci beaucoup. Docteur Seri Bambagaï, en quelques secondes, s'il vous plaît, une conclusion générale à la fin de l'émission.
Je pense que le monde est en train de vivre une crise majeure. Et cette crise aujourd'hui va affecter les relations internationales. Cette crise va remettre en cause comment les politiques de santé sont pilotées dans les États. Cette politique également doit permettre à l'Afrique de se repositionner au niveau international pour travailler dans le sens d'une mondialisation beaucoup plus humaine, mais en même temps permettre également à l'Afrique de pouvoir disposer d'outils et de moyens pour faire face à la prochaine pandémie virale.
Merci beaucoup, docteur. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Sering Bambagaye, consultant et chercheur, expert senior en gouvernance et stratégie. Merci à notre confrère Tambel Gembayara, qui intervenait depuis Paris, directeur du mensuel d'information La Voix du Mali. L'émission a été réalisée à Dakar par Patrick Tévy. Régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Et bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Liliane. Vous allez peut-être profiter des quelques secondes qui nous restent pour nous faire part de vos talents de chanteuse, parce que vous m'avez promis ça en début d'émission hors micro. Comme ça, tout le monde le saura.
Mais Francis Laloupo, mais vous n'étiez pas là, je l'ai déjà fait. Vous ne l'avez pas écouté. Je vais remettre ça, mais ce sera la prochaine fois. Je vous le promets.
Vous savez que vous avez l'habitude de quelques concerts privés il y a quelques années. Vous pouvez peut-être revenir à cette belle tradition.
Je n'ai pas abandonné le principe, rassurez-vous. La semaine prochaine, je vous garantis que vous en aurez droit. Chères auditrices et auditeurs, soyez donc au rendez-vous. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.